Vous êtes sur RTL. RTL. RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Merci à vous tous d'être là. 7h42, c'est donc RTL qui crée l'événement ce matin, car c'est le ministre de la Santé, votre invité, notre invité en direct. Bonjour Olivier Véran.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous et face aux auditeurs, ces Français qui se vaccinent, ces Français qui râlent face aux contraintes. On va les entendre, à vous de les convaincre. C'est une chose pas simple dans le climat de défiance ambiant. Tous les mots sont importants. Je vous cache pas que depuis que nous avons annoncé votre présence ce matin sur les réseaux sociaux, vous êtes un menteur parce que vous êtes un ministre et je suis un collabo parce que je suis un journaliste. Alors jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, dites, je le jure.
Je dirais même la vraie vérité.
Soyons directs. Est-ce que ce matin, 20 juillet 2021, la quatrième vague est là ?
Oui. Oui, il y a plus de 10 000 cas avant-hier. Nous sommes à 7 000 cas aujourd'hui en moyenne par jour dans notre pays. Puis ce qui change par rapport à la première, deuxième et troisième vague, c'est qu'il va très vite ce virus. Il est beaucoup plus contagieux, on le savait, mais on le constate chaque jour. C'est-à-dire qu'on fait plus de 120% quand on neutralise l'effet jour férié, enfin c'est compliqué, mais grosso modo retenez qu'on est entre 100 et 130% d'augmentation des cas sur une semaine. Je l'avais dit il y a 3 semaines, si vous vous souvenez, il n'y avait pas beaucoup de virus en circulation, j'ai dit l'épidémie, si elle doit repartir, ça n'attendra pas septembre, ce sera en juillet.
Ça veut dire quoi ?
Je m'étais même risqué à dire peut-être 15-20 000 cas à la fin du mois de juillet. J'ai peur d'avoir eu, entre guillemets, les mots justes, puisque ce variant est effectivement très très contagieux et circule. Aujourd'hui c'est une épidémie de jeunes. Vraiment une épidémie de jeunes, c'est-à-dire les 15-40 ans et même les 20-30 ans ont le taux d'incidence le plus élevé. Dans certains départements, je pense aux Pyrénées-Orientales, on a un taux d'incidence qui est au-dessus de 1000 chez les jeunes. Ah. On comprend pourquoi. Ce sont des gens qui sont moins vaccinés que les personnes âgées, qui elles sont davantage protégées par le vaccin, donc plus susceptibles d'être contaminées par le virus. La bonne nouvelle, c'est que les jeunes font moins de formes graves, donc on voit pas encore d'impact hospitalier. Mais si vous vous souvenez bien de l'été dernier, les jeunes ont commencé par être contaminés, puis ensuite des personnes âgées ont pu être contaminées, c'était au mois de septembre, et ensuite on a eu un impact hospitalier avec une vague. Donc je reste extrêmement vigilant, il y a une part, entre guillemets, d'inconnu dans la mesure où on ne connaît pas encore l'impact complet à l'échelle d'une population de la vaccination qui est quand même avancée dans nos pays européens sur les cas graves, mais on constate en Angleterre par exemple qu'ils ont fait 4 fois plus d'hospitalisations en un mois, et on constate que nos indicateurs d'admission aux urgences, d'hospitalisation ou d'admission en réanimation, même s'ils restent encore assez faibles à ce stade, ont commencé à augmenter.
Ça veut dire quoi ? Qu'on pourrait avoir 30, 40, 50 000 cas très rapidement ?
Ça veut dire qu'on peut avoir des chiffres qui, effectivement, peuvent donner même un peu le vertige, compte tenu du fait qu'il est très, très contagieux, ce variant. Très contagieux. Regardez, un club de nuit avec 500 jeunes, on va avoir, je ne sais pas combien on en est, mais peut-être déjà 10% des gens qui sont contaminés au sein du club. Je ne dis pas ça pour stigmatiser le club, je vous dis ça pour montrer l'exemple. Ça veut dire qu'en l'espace d'une heure ou deux heures, vous êtes en contact avec des gens qui sont potentiellement contagieux. Si vous n'êtes pas vacciné, vous allez attraper le virus.
Monsieur le ministre, on a besoin de comprendre, et les auditeurs en particulier, pourquoi si nous faisons face aujourd'hui à autant de cas, il y a aussi peu d'hospitalisations.
Mais je vous ai répondu, c'est une épidémie de jeunes. Les jeunes de 20 à 30 ans font beaucoup moins de cas graves. Ils peuvent faire des Covid longs. Un certain pourcentage d'entre eux, d'ailleurs, feront hélas des Covid longs. C'est-à-dire qu'ils seront KO pendant des semaines ou pendant des mois. Donc il ne faut pas croire du tout qu'on est à l'abri de tout danger. Et si les jeunes ont dans leur entourage d'autres personnes qui ont fait des Covid longs, ils leur raconteront ce que ça veut dire. Il y a aussi des cas graves chez les jeunes, mais c'est plus rare. Mmh. Et c'est tant mieux, c'est ce qu'on a constaté lors des vagues précédentes. Mais je constate aussi une augmentation du taux d'incidence dans la circulation du virus chez les personnes plus âgées, au-dessus de 60 ans. Et là, les mêmes causes produisant les mêmes conséquences, plus on aura de cas de contamination chez les personnes âgées, plus on aura d'hospitalisation et même de décès. Il y a encore 10-15% des personnes âgées fragiles qui ne sont pas vaccinées. C'est beaucoup. C'est beaucoup. La première vague qui a mis, pas à genoux, mais qui a mis en très forte tension tous les hôpitaux de France, n'a finalement touché que 2 ou 3% de la population.
Ça va très vite.
On a encore facilement 15% de la population sensible qui n'est pas vaccinée. Donc, plus nous nous vaccinons, plus nous freinons le virus et plus nous limitons les risques de constater un impact sanitaire dans quelques semaines. Quand on constate l'impact sanitaire et qu'on se dit « Ah bah oui, vous avez eu, finalement ça monte », c'est trop tard. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, c'est pour ça qu'on met l'accent sur la vaccination, mais aussi qu'on redit les consignes d'usage. Attention, vivez le plus normalement possible, mais gardez vos distances quand c'est possible. Lavez-vous les mains, faites attention à tout ça, ces vieux réflexes, il ne faut pas les oublier.
Ouais, c'est le classique depuis un an et demi.
Oui, mais pas se déclasser. Parfois on oublie ces vieux classiques, mais pourtant ça marche.
Vous êtes fixé un objectif en termes de vaccination, en termes de millions de personnes vaccinées ?
Là, c'est l'objectif, c'est le maximum possible.
Ça veut dire quoi le maximum ?
On avait fixé un objectif qui était 40 millions de primo-vaccinés à la fin août, vous vous souvenez ? Là, je pense qu'on va faire les 40 millions avant la fin juillet, ou à la fin du mois de juillet, parce que ça avance très vite et c'est tant mieux. Je fais le maximum avec les ARS, les assurances maladie, les centres de vaccination, les médecins, les pharmaciens, pour qu'on puisse proposer le maximum de vaccins au maximum de Français dans les toutes prochaines semaines, parce que maintenant ils sont très nombreux à vouloir se protéger le plus vite possible pour avoir le pass sanitaire ou parce qu'ils ont compris que la vague épidémique était là. Et donc on fait vraiment ce maximum-là et si on arrive à 43, 44, 45, je ne sais pas, je ne veux pas vous donner de chiffres à la fin du mois d'août, on a une chance d'avoir vacciné plus de 80, peut-être 85% de la population vaccinable d'ici la fin de l'été, ce qui serait en soi déjà le meilleur résultat à atteindre dans une campagne vaccinale française, mais je ne suis pas sûr que ça suffise encore. Il nous faut atteindre, vous le savez, l'immunité collective, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 9 ou 9,5 Français sur 10 qui soient vaccinés.
Olivier Véran, la vaccination obligatoire des soignants, ça c'est une décision forte de ces derniers temps. Est-ce que les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, ils se font piquer un peu, beaucoup, énormément
beaucoup,
ces
énormément.
Derniers temps? Vraiment?
Ouais, j'ai des échos partout, dans les EHPAD, les hôpitaux.
Des échos, c'est pas des chiffres, monsieur Véran.
Vous avez si vous avez des chiffres, je suis preneur. Vous savez, il y a ce qu'on appelle à la fois le secret médical, il y a beaucoup de choses. Donc il est très compliqué d'avoir des statistiques précoces. On a des statistiques hebdomadaires par Santé publique France ou mensuelles selon les soignants considérés qui nous permettront de suivre cela et je communiquerai comme je l'ai toujours fait. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai des directeurs, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants qui appellent nombreux pour dire qu'ils voient qu'il y a un vrai mouvement collectif de vaccination. C'était attendu et c'est tant mieux parce que ça va les protéger eux, qui sont au contact des malades, puis ça va protéger leurs malades.
Alors ils le font, mais pas tous. Je voudrais vous faire entendre les mots qui nous ont marqués hier matin sur notre antenne sur RTL. C'est la position d'une infirmière qui se prénomme Aurore et qui est aussi une maman. Écoutez.
Moi j'ai des enfants qui veulent à tout prix se faire vacciner pour pouvoir vivre librement, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et c'est inadmissible et je me battrai pour pas qu'ils soient vaccinés. Hier ils m'ont dit qu'ils pensaient à se faire vacciner. J'ai deux filles qui ont plus de 20 ans et vraiment moi ça m'a détruite. Parce que je me dis on vit dans un... C'est franchement dur parce qu'on est obligé d'avoir quoi? De montrer patte blanche pour aller sortir au ciné, etc. pour vivre. Non mais moi ça me fout les boules.
Vous l'entendez ça?
Alors je l'entends mais je ne le comprends pas. Plutôt vous dire, c'est historique. C'est pas la première fois qu'il y a une vaccination massive. Et à chaque fois il y a eu des mouvements sociaux. 1902, 1934, 1940, dans les années 60. À chaque fois qu'il y a eu un vaccin qui a été généralisé, quelle que soit la façon de le généraliser, il y a eu des mouvements sociaux avec des arguments ou religieux ou, je dirais, parascientifiques ou politiques sur la liberté individuelle. Ce que je dis aux Français, c'est qu'à l'individualisme, nous préférons la responsabilité collective. C'est ainsi qu'en France, vous ne pouvez pas rouler au-dessus de 130 à l'heure sur l'autoroute ou vous ne pouvez pas boire trop d'alcool avant de prendre votre volant. Pour vous protéger, vous, mais aussi pour protéger celles et ceux qui empruntent les mêmes routes que vous. Et je voudrais dire aussi aux manifestants qui étaient un certain nombre samedi dans les rues de France, que parmi eux, statistiquement, les mesures de la loi que nous allons commencer à examiner au Parlement aujourd'hui vont sauver des vies, parmi eux, mais vont aussi sauver des vies de leurs parents, de leurs amis, de leurs proches. Ils ne le voient pas, ils ne l'entendent pas, parfois ne le souhaitent peut-être pas, mais ce que je leur dis, c'est que cette protection collective, aujourd'hui, elle s'impose à tous. Nous devons aussi nous sortir de cette épidémie. Nous avons un moyen extraordinaire de sortir de l'épidémie. Si nous n'avions pas eu le vaccin avec le variant Delta aujourd'hui, on ne parlerait effectivement pas de vague. Je crois que c'est Gabriel Attal qui a parlé à juste titre de tsunami. Si nous n'avions pas le vaccin pour protéger les plus fragiles, je ne suis même pas sûr qu'un confinement généralisé aujourd'hui nous permette de protéger nos hôpitaux et de sauver autant de vies que ce que nous avons pu sauver avec les décisions du président de la République au cours de l'année 2020. Donc il y a urgence à nous vacciner. J'entends les réticences, j'entends les gens qui doutent, qui ont peur. Parfois, pour conjurer la peur, on va chercher des idoles. Parfois, pour conjurer la peur, on va se référer à la magie avec des médicaments qui n'existent pas ou qui ne fonctionnent pas. Mais ce que je dis, c'est que la science, elle est là aussi. Elle est là aussi pour nous aider face à la peur collective et à nous protéger. Et
hier soir, Olivier Véran, les parlementaires socialistes se sont prononcés pour la vaccination obligatoire pour tous, pas que pour les soignants. Est-ce que ça, c'est un scénario envisageable?
Nous avons consulté, le Premier ministre a consulté tous les groupes politiques. Tous les groupes politiques, avant de préparer un projet de loi. Les groupes politiques ne se sont pas prononcés pour une vaccination, en tout cas le groupe socialiste ne s'est pas prononcé pour une vaccination obligatoire des Français. Il était plutôt réceptif à l'idée du pass sanitaire. Ensuite, nous sommes passés devant le Conseil d'État. Vous voyez, comme on est en dictature, on consulte les groupes politiques, on passe devant le Conseil d'État, on présente un projet de loi en Conseil des ministres, que je vais aller défendre à l'Assemblée nationale, que je défendrai ensuite au Sénat, et qui ensuite sera traduit devant le Conseil constitutionnel qui dira la vérité du droit. Voilà pour le fonctionnement démocratique. On a ceinture et bretelles. On aura le débat au Parlement. Aucune proposition n'est illégitime. Et moi, je préfère un groupe socialiste qui propose plutôt qu'un groupe de la France Insoumise ou du RN qui s'oppose systématiquement. J'ai aucune difficulté à débattre des propositions. Et ensuite, je respecte profondément la démocratie. Je serai dans l'hémicycle jour et nuit, toute la semaine et s'il le faut ce week-end, pour expliquer la position du gouvernement et pourquoi est-ce que nous considérons que ce que nous avons mis sur la table, après concertation des groupes politiques, est de nature à protéger un maximum de Français sans aller vers une obligation systématique.
Alors, vaccination obligatoire ou pas, un jour ?
Mais aujourd'hui, je vous le dis, nous sommes sur la logique du pass sanitaire, c'est-à-dire nous incitons fortement les gens à se faire vacciner. Je cherchais, vous savez, dans les tablettes de l'histoire de la vaccination, actuellement, il n'y a aucun vaccin qui soit obligatoire à l'âge adulte. On a des vaccins obligatoires chez les nourrissons. Vous ne rentrez pas en crèche quand vous n'êtes pas vacciné contre certaines maladies. Pour les adultes, ce serait quand même un peu plus compliqué. Si vous n'êtes pas vacciné, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie des gendarmes chez vous, on vous appelle, on vous dit vous ne pouvez pas aller faire vos courses. J'attends de voir quelle est la nature de la proposition concrète des députés, sénateurs socialistes ou d'autres groupes parlementaires si les propositions émergent. Je vous le dis, je me satisferai toujours quand on sera capable de débattre de façon apaisée, en responsabilité, vu l'enjeu pour notre pays, pas l'enjeu que sanitaire d'ailleurs, l'enjeu économique, social, culturel, sportif, de santé mentale, pour notre pays. Donc je suis intéressé par ce débat, je l'accueille plutôt comme utile et nous verrons ce qu'il en ressortira.
Olivier Véran, on a une première question d'auditrice qui est une professionnelle du monde médical, c'est Claire qui est directrice de clinique. Bonjour Claire, bienvenue.
Bonjour Stéphane, bonjour Monsieur le Ministre.
Bonjour. Je vous écoute.
Monsieur le ministre, vous avez parlé que la protection collective était indispensable, que nous allions rentrer dans la quatrième vague, que nous étions dans la quatrième vague. Ne pensez-vous pas qu'en rendant la vaccination obligatoire que sur le personnel de nos établissements, vous les stigmatisez alors qu'ils ont fait des efforts? Moi, j'ai 58 ans, j'ai vécu des choses que j'aurais jamais vécues et qui ont été très marquantes. Est-ce que vous ne pensez pas que vous les stigmatisez, qu'il aurait été plus stratégique, plus délicat de vacciner obligatoirement tout le monde? J'ai entendu vos arguments comme quoi c'est compliqué à contrôler pour les adultes, mais ne pensez-vous pas quand même que vous auriez donné un signe fort au personnel des établissements de santé?
Claire qui est à Reims et qui attend votre réponse, monsieur Véran.
Votre question, et vous savez que je fais partie de votre famille, la famille des soignants. J'ai été aide-soignant, médecin, ministre de la Santé, ministre des soignants et des patients. Je n'ai aucun doute, mais aucun doute, sur la nécessité de vacciner massivement les soignants dans notre pays pour protéger les patients. D'ailleurs, vous savez, j'ai réuni les 7 ordres professionnels, des médecins, des pharmaciens, des sages-femmes, des infirmiers, etc., et toutes les fédérations, qui m'ont tous dit, ils ont signé d'ailleurs, que c'était une obligation morale, individuelle, professionnelle, éthique, déontologique, quand on soigne, de s'assurer qu'on ne transmettra pas le virus. Et il se trouve que parce que je suis ministre, je suis allé aussi dans beaucoup d'hôpitaux et dans beaucoup d'EHPAD, et que j'ai vu des situations où, hélas, et bien malgré eux, des soignants avaient pu faire rentrer le virus. Et ensuite, une fois que le virus est rentré, les personnes très âgées, et vous le savez madame, même vaccinées quand elles sont très âgées, qu'elles ont 95, 100 ans, elles n'ont pas la même immunité qu'un adulte plus jeune. Donc en responsabilité, je suis sûr, absolument sûr, de la nécessité absolue de vacciner tous les soignants dans notre pays. La question de la vaccination en population générale, elle appelle d'autres types de réflexions. Un, parce que vous pouvez être évoluer en société et ne pas être en contact au quotidien avec des personnes très fragiles et très malades. Mais je veux, c'est sûr, créer à l'hôpital, dans les EHPAD, des sanctuaires anti-Covid. Que les gens qui sont hospitalisés, que les gens qui sont malades, qui ont des cancers, des infections, les enfants, les personnes âgées, qui sont immunodéprimés, puissent se dire qu'en rentrant à l'hôpital, ils ne sont pas dans un lieu qui peut se transformer en nid à virus et qu'ils n'attraperont pas le Covid. Et des situations où les gens très fragiles ont attrapé le Covid alors qu'ils venaient recevoir des soins, on en a trop connu dans notre pays.
Merci Claire pour le coup de fil, vous avez eu votre réponse du ministre de la Santé qui va rejoindre son café et nous retrouver.